du ras-le-bol fiscal à la contestation politique, la France a connu un troisième samedi de violence inédite depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Face à cela, un exécutif sans mots et sans réponse, comme débordé par ce mouvement et ses revendications protéiformes. Et si autorité ne valait pas surdité, comment rendre la colère constructive? Invité aujourd'hui de cette grande table des idées, Julien Damon, professeur associé à Sciences Po et conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, auteur entre autres de l'exclusion, les politiques familiales et de quelle bonne idée, sans proposition plus ou moins saugrenue dans l'espoir fou de refaire le monde. On en aura bien besoin aujourd'hui. Le tout est paru aux Presses universitaires de France. Bonjour Julien Damon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Reprenons l'histoire là où elle a commencé. Une taxe supplémentaire sur le carburant, un trop-plein, parole de Gilets jaunes.
J'étais infirmière jusqu'à 60 ans et j'ai une retraite qui ne me permettra pas d'aller en maison de retraite quand ça sera le moment. Voilà. Mais c'est pour mes petits-enfants que je le fais. Je voudrais qu'ils aient une vie meilleure que la mienne, parce que la mienne, elle a été... Bon, je regrette pas, c'est une vie de labeur, mais quand même, il y a des limites quand même. Et puis je vois le mépris qu'on a des citoyens. On est des pestes brunes, on est des feignants, on est... C'est devenu intolérable.
Moi, parce que j'arrive pas à boucler mes fins de mois et parce que c'est dur et que maintenant il y en a marre.
Pour être solidaire avec les gens et puis nous on a nos difficultés donc on a envie de se faire entendre aussi.
Et j'en ai marre de payer 800 euros de gasoil par mois pour aller travailler.
Les gens ils ont faim, bah, ils ont le droit de manger quoi en fait.
Il y a un réel problème, personne n'a l'impression de pas être entendu, pas écouté.
Moi je suis issu des grandes écoles, je travaille en finance, j'ai vu à quel point Rothschild, dont est issu Macron, Lazare et tout ça, c'est des pourris jusqu'à la troque, j'ai bossé avec eux. En fait, la vie est un jeu pour eux et nous, on est des pions sur un échiquier. Donc ils peuvent faire fermer des usines, mettre des centaines de personnes à la porte juste pour gagner quelques millions de plus alors qu'ils sont déjà milliardaires. Enfin, moi, je l'ai vu, ça fonctionne comme ça. Je travaille dans le conseil en stratégie.
Les Gilets jaunes ont raison parce qu'on en aura le cul de payer des impôts. On en aura le cul. Et qui vont taxer que ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Qu'ils arrêtent de taxer les Français avec des petites retraites et des salaires très bas.
Je travaille dans les écoles maternelles, je suis assistante maternelle. J'ai deux enfants avec mon ami et on n'y arrive plus. On n'a pas de voiture parce que de toute façon on n'a pas les moyens. Parce qu'on a le droit à rien et c'est pas que le SMIC qu'on gagne. Et non, ça devient trop dur. La Noël, je n'ai pas encore rien acheté pour mes enfants. Rien parce que je peux pas. Donc il y a un moment, stop.
Je suis pour l'instant au chômage, en intérim, voilà. Donc j'ai deux enfants et j'ai ma paye le 10 et le 15, j'ai plus rien pour manger. Donc je peux pas leur faire plaisir, je peux rien faire. Donc voilà, ce serait bien qu'on nous entende un petit peu.
Il est féminin et masculin, mais au-delà de ça, quel corps social mettez-vous, Julien Damon, derrière les Gilets jaunes? De quelle France sont-ils le visage pour vous aujourd'hui?
Ce qui est vrai, c'est qu'à côté du mouvement des Gilets jaunes est née une nouvelle profession, ce sont les gilets jaunologues. Il y a des spécialistes de gynélologie.
Vous n'en êtes pas encore un, vous avez déjà votre diplôme?
Non, il n'y a pas encore de faculté qui vont proposer ces diplômes, mais comme c'est un mouvement dont tout le monde observe qu'il n'a pas de représentants et qu'il est difficile d'avoir des représentants, il n'y a pas d'échantillon représentatif des Gilets jaunes. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est peut-être un mouvement social 2.0. On ne voit pas émerger des interlocuteurs qui permettent de dire ce que sont les traits de cette population, ainsi que précisément l'ensemble de ses revendications. Ceci dit, on doit quand même pouvoir faire de la croyance et de l'appréciation. On a entendu pas mal de Gilets jaunes, ne serait-ce qu'au début de cette émission. C'est assez simple. Ce ne sont ni les très riches, ni les très pauvres. Si on dit que ce sont les classes moyennes inférieures qui se mobilisent par rapport à une forme certaine de mépris social dont elles peuvent pâtir et de difficultés de pouvoir d'achat, on a bien enfoncé notre porte ouverte, là, mais il est bon de prononcer les poncifs. Je crois que nous avons une forme de révolution, ou de révolte, n'exagérons rien, de révolte d'une classe moyenne inférieure. Il y a plein de débats intellectuels, et ici on les apprécie, on les nourrit, on les discute, quant à savoir si monsieur Christophe Guillouis a raison ou non de parler d'une France périphérique, je pense que la réalité lui donne tout de même une forme de raison. C'est la France périphérique, périphérique socialement, un brin périphérique géographiquement, qui se lève contre ce qu'elle estime être une situation inacceptable.
Christophe Guilluy, qui dans son dernier essai, No Society, actait la disparition des classes moyennes, c'est pas la première fois, mais qui estimait aujourd'hui que cette France du milieu était aussi en train de disparaître et que le fossé s'accentuait entre la France d'en bas et celle d'en haut, comme on avait tendance à le dire avant, il y a quelque temps, sur ce constat-là. Juste pour revenir, quand vous dites, ce n'est en tout cas pas la France ou les plus défavorisés, ni les plus riches. Pourquoi eux se sentiraient pas représentés par ce mouvement ?
Ben, les premiers, les plus aisés, parce qu'ils sont la cible de ce mouvement, et les plus aisés, il faut entendre par là les célèbres 1% ou 1 pour 1000 de la population qui bénéficient dans tous les grands pays riches à plein rendement des bienfaits de la mondialisation. Et puis les moins aisés, par nature, ils se mobilisent peu. Il y a eu très peu de mouvements de chômeurs, de sans-abri ou de défavorisés. Sinon, il y a exactement 20 ans d'ailleurs, en 97-98, on oublie souvent l'histoire, vous aviez eu un mouvement des chômeurs bien moins impressionnant, bien moins large que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je pense qu'en effet, ceux qui se mobilisent aujourd'hui sont ceux qui s'estiment trop peu aisés pour bénéficier des avantages fiscaux et trop peu défavorisés pour bénéficier de ce qu'une partie des gilets jaunes critique, c'est-à-dire les dépenses d'assistance.
Vous dites que les plus aisés sont la cible aujourd'hui de ce mouvement. Est-ce qu'ils sont aussi les premiers bénéficiaires des réformes qui ont eu lieu depuis un an ?
Alors là, c'est bagarre générale et bagarre entre économistes. On verra ce que Mathieu Plaine analyse.
Parce que nous aurons dans quelques minutes l'économiste Mathieu Plaine au téléphone.
Voilà, de l'OFCE. Si on regarde les études qui ont été produites sur les impacts socio-fiscaux des décisions du gouvernement, assez paradoxalement, ce sont les classes moyennes qui en bénéficieraient le plus, mais sur le papier, car vous avez des effets de calendrier, des effets de compréhension qui font que, de toutes les manières, les gens estiment être défavorisés par le système et que, d'autre part, il n'y a pas que le revenu disponible dans la vie, il y a les dépenses contraintes qui augmentent. On peut avoir plus de sous sur le papier et en début de mois sur le compte en banque, en milieu de mois, quand il s'est agi de payer toutes les factures, dont celles de logement et dont celles d'énergie, on a un revenu dont on peut véritablement disposer pour choisir ses consommations qui est plus faible.
L'étincelle, ça a été cette taxe sur le carburant supplémentaire qui a été évoquée, sur lequel le gouvernement n'est toujours pas revenu. Ça a été le point de départ. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, et vous aussi, j'imagine, Julien Damon, que le ras-le-bol va bien au-delà. On parle beaucoup de cette question du pouvoir d'achat, de tout ce qui vient miner aujourd'hui le consentement à l'impôt des Français. Le sentiment peut-être de ne pas bénéficier aussi d'une redistribution comme avant. Est-ce que vous pensez, vous, Julien Damon, que notre politique redistributive, ce qui est quand même le cœur de la politique sociale française, ne fonctionne plus?
Alors, oui, il y a des à-coups. Première chose, c'est un système qui, de par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur la fortune, d'un seul coup d'un seul, s'est vu balayer son objectif de diminution des revenus des très très aisés. Deuxième chose, vous avez pour les plus défavorisés un plan qui a mis du temps à être annoncé pour lutter contre la pauvreté et des projets qui ne sont pas du tout envoyés au calendrier grec, mais mettons au calendrier romaine un peu plus tôt, donc en 2020, pour un éventuel revenu universel d'activité dont on parle. Donc il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits en faveur des plus aisés et peu en direction des classes moyennes, peu effectivement en direction des classes moyennes. C'est-à-dire que quand je dis effectivement, c'est-à-dire que peu encore réalisé. C'est-à-dire que quand on met... quand on met fin à la taxe d'habitation, quand on enlève des cotisations salariales pour l'assurance maladie ou pour le chômage, net sur son salaire, on doit avoir plus de revenus.
Mais ça n'est pas encore fait.
On a augmenté la CSG pour compenser ça et on l'a augmenté avant. Mais au-delà de ces affaires techniques, le système de redistribution à la française, il fonctionne toujours relativement bien pour, en moyenne, pondérer les inégalités. Mais il n'empêche pas, au-delà des ras-le-bol fiscaux, ou des problèmes de revenus, cette polarisation grandissante des emplois et des positions sociales qui fait que vous avez une partie de la population qui s'élève contre le mépris dont elle peut penser, à mon avis, à juste titre, être la cible. On a passé son temps à parler de LinkedIn, d'assemblée LinkedIn, de start-up, de disruption dans tous les coins. Une très grande partie de la population n'y comprend rien, ça ne l'intéresse pas, ça ne la concerne pas forcément, et elle a l'impression, une nouvelle fois, de mon petit point de vue à juste titre, d'être mise de côté.
Avec nous par téléphone, l'économiste Mathieu Plane. Bonjour.
Bonjour.
On évoquait la question du pouvoir d'achat. Vous venez de réaliser avec d'autres une étude réalisée par l'OFCE sur la question des revenus, de la baisse des revenus disponibles des ménages depuis 10 ans. C'est en tout cas ce que vous constatez, cette question du pouvoir d'achat. Il est très difficile de juger d'un ressenti de ce point de vue. Le ras-le-bol fiscal est probablement légitime. Mais dans les faits, est-ce qu'il est justifié, dans les chiffres, devrais-je dire? Est-ce qu'il y a vraiment une baisse du pouvoir d'achat?
Oui, alors c'est vrai qu'il est important de prendre un peu de recul hein, là-dessus et de voir ce qui s'est produit depuis 2008. Hein, c'est le début de la crise économique et financière. Ce qu'on constate, hein, c'est quasiment 10 ans après la crise, c'est que le niveau de vie hein, par ménage, en tout cas le pouvoir d'achat par ménage, n'est pas revenu à son niveau d'avant crise. Alors qu'il faut avoir en tête que avant crise, donc c'est-à-dire la période les 10 ans, disons, avant 2008, hein, de la fin des années 90 à 2007-2008, on avait un pouvoir d'achat qui augmentait régulièrement et de façon assez nette chaque année, de 300-400 euros par an. Là, on est à un niveau, donc quasiment 10 ans après, qui est encore inférieur à celui de 2008. Et par ménage, c'est ce qu'on constate avec, bah là on reviendra peut-être dessus, mais on voit qu'à peu près toutes les catégories sociales ont vu leur niveau de vie baisser, alors de façon plus ou moins différente pour des raisons plus ou moins différentes. On va dire la classe moyenne, elle, c'est plutôt, et la classe moyenne inférieure, on va dire que ça a été plutôt, la classe moyenne inférieure, ce que je veux dire, les catégories sociales qui sont en bas de la classe moyenne, eux, c'est plutôt lié à la dégradation du marché du travail, l'augmentation des temps partiels, contrats précaires, etc. Et les plus hauts revenus, eux, c'est plutôt par les hausses importantes de fiscalité, parce que malgré tout, pendant ces 8 ans, 9 ans post-crise, il y a eu beaucoup de mesures socio-fiscales qui ont été prises et qui ont quand même accentué les effets redistributifs. Donc, a permis quand même de limiter la casse en termes d'inégalité. Mais malgré tout, on voit qu'il y a eu un affaissement généralisé du niveau de vie et que malgré l'ensemble des mesures qui ont été prises, ça n'a pas été suffisant pour faire en sorte que les niveaux de vie puissent remonter pour certaines catégories.
Vous donnez un chiffre qui semble ou qui est assez parlant, hein, 440 euros, c'est la baisse du revenu disponible des Français depuis 10 ans, depuis 2008. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre, ou plutôt à quoi correspond-il? Qu'est-ce que vous appelez déjà le revenu disponible?
Alors, on regarde les niveaux de vie par ménage, donc il faut bien avoir en tête qu'on regarde ce qui reste, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez intégré l'ensemble des revenus, donc que ce soit des revenus du travail, mais aussi du capital, hein, si vous avez un patrimoine, ou des prestations sociales, hein, si vous touchez différents types d'allocations, ça peut être des allocations logement, des allocations famille, chômage, ou pour les retraités, ça va être la pension de retraite. Et on regarde aussi en face de ça l'ensemble des prélèvements obligatoires, donc c'est des cotisations sociales ou des impôts, à la fin reste en fait le niveau de vie, et donc ce niveau de vie, on a regardé son évolution depuis 2008, et ce qu'on observe, c'est que en moyenne, il a effectivement baissé de 440 euros entre 2016 et 2008, donc c'est 440 euros en moins par an pour un ménage en moyenne en France par rapport à la situation de 2008. Donc il y a une vraie question du pouvoir d'achat qui est, à mon avis, pas propre à la France et dans laquelle, en fait, il y a deux effets hein, qui sont extrêmement marquants. C'est plutôt dégradation économique et donc du marché du travail qui va plutôt impacter, on va dire, les classes de revenus qui sont quand même les moins favorisées. Les autres qui sont plutôt plus élevés ont vu des augmentations d'impôts importantes, ce qui fait que ça réduit leur niveau de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système socio-fiscal, hein, qu'on prenne à la fois les hausses de prestations d'un côté ou les augmentations d'impôts, ce qu'on voit, c'est que globalement, en moyenne, ça a pesé à hauteur de 500 euros en moyenne par ménage. C'est-à-dire qu'en moyenne, les ménages ont payé quand même plus de prélèvements depuis 2008 qu'ils n'ont reçu de prestations. Et donc, il y a à peu près 67% des ménages qui sont quand même perdants aux mesures socio-fiscales qui ont été prises depuis 2008. Et c'est, à mon avis, ça qui pose un certain nombre de problèmes.
Julien Damo, un mot sur ce premier constat.
Alors d'abord, j'ai fait une erreur diplomatique intellectuelle. Je pensais que c'était Mathieu Laine et c'est Mathieu Plane. Mathieu Plane est un intellectuel libéral, très libéral, proche du président Macron. Ça n'a rien à voir. Donc, mea culpa, c'est important sur ce type d'antenne. Excuse
et pardon de ne pas vous avoir rectifié parce que j'ai pas entendu le.
Ah, si, si,
je suis resté dans la dans, voilà, dans la mélodie disais, voilà, pareil du nom.
Mathieu Plane.
Donc Mathieu Plane, double excuse.
J'ai pas une grosse bêtise. Bon, ça n'est que la première de l'émission. La deuxième, c'est qu'en effet, diminution ou stagnation du niveau de vie. De fait, il y a un problème de niveau de vie et de pouvoir d'achat en témoignent tous les ronds-points sur lesquels on trouve des personnes qui, plus que les chiffres, leur rappellent. Je pense que dans l'étude de l'OFCE, vous avez ce développement sur les transformations économiques depuis 2008 et aussi la mise en avant d'un autre sujet qu'il ne faut jamais oublier, qui est le changement démographique, le vieillissement et la diminution de la taille des ménages. En gros, si vous voulez vous appauvrir, vous avez le sujet du chômage, mais il est plutôt compensé rapidement, pas forcément très favorablement, mais compensé par le système de protection sociale. Si vous voulez vous appauvrir plus vite, il suffit de vous séparer. Je dis ça pour donner une image. Les transformations démographiques ont une importance majeure sur les niveaux de vie des gens.
D'ailleurs, vous le constatez, oui. Mathieu Plane, à ce sujet, oui. Il y a effectivement oui. La question démographique, celle du marché du travail bien qui sûr. A évolué aussi, en plus bien des sûr. Réformes sociales et fiscales qui ont pu être mises en place.
Bien sûr, bien sûr. C'est un point important aussi. Hein. C'est-à-dire que, assez clairement, il y a aussi une évolution de la structure démographique. On a de plus en plus de familles monoparentales, par exemple, qui va peser sur le niveau de vie moyen des ménages, on va dire, les moins aisés, typiquement. Il y a le phénomène du vieillissement. On a de plus en plus de retraités dans la population. Donc tout ça peut jouer hein, sur les moyennes. Mais donc on a une superposition d'événements hein, depuis 2008, hein, crise économique financière avec impact fort sur le marché du travail, évolution démographique défavorable au niveau de vie par ménage, et puis effectivement c'est l'ensemble des mesures socio-fiscales qui, une fois de plus, je veux quand même insister là-dessus, c'est-à-dire que elles ont quand même visé à soutenir le revenu des plus modestes, des plus pauvres. Il y a eu quand même un plan pauvreté, il y a la revalorisation de certains minima sociaux, mais malgré tout, face à ça, il y a eu beaucoup d'augmentation de prélèvements, dont une partie a permis de financer justement ces hausses de prestations sociales, mais une autre partie a servi à combler les déficits qui sont issus de la crise économique. Et donc je pense qu'il y a une espèce de décalage qui s'est instauré entre la hausse de prélèvements que ressentent un certain nombre de ménages, on va dire globalement de la classe moyenne, et puis le fait que les prestations pour eux n'ont pas forcément augmenté. Donc ce décalage donne une certaine impression en fait de peut-être de ras-le-bol fiscal par rapport à des prestations qui ont plutôt tendance à se réduire, en tout cas pour un certain nombre de ménages.
Mathieu Plane, cette étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques a été publiée il y a une dizaine de jours. Est-ce qu'il a été lu par l'exécutif? Vous le savez peut-être, moi pas. Reste que s'il est lu, à votre avis, quelles mesures urgentes devraient être prises aujourd'hui? Sur quoi ça pourrait déboucher?
Alors, je ne sais pas hein, si l'exécutif a lu notre étude. Nous, on essaye de dresser une analyse assez objective de la situation à partir d'un certain nombre d'éléments hein, qu'on a sur notamment la fiscalité, les évolutions du pouvoir d'achat. Non, c'est qu'assez clairement, cette question du pouvoir d'achat, elle est importante. Hein, il faut vraiment pas la négliger. Une fois de plus, je pense que c'est pas un problème franco-français, mais que effectivement, suite à la crise économique, beaucoup de mesures ont été faites, et certainement légitimement parfois, en direction des entreprises, pour favoriser la compétitivité des entreprises, redresser le tissu productif, réduire les déficits publics. Mais c'est vrai qu'in fine, c'est plutôt les ménages qui ont payé la facture, en tout cas en termes d'impact sur leur niveau de vie. Donc c'est vrai qu'il y a un besoin de rééquilibrage aussi de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il faut faire à la fois des mesures de compétitivité, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, que parler de réformes structurelles, de baisser d'impôts pour peut-être les plus fortunés, ou en tout cas baisser l'impôt sur aussi un certain nombre de sociétés, finalement font que les ménages, notamment un ensemble de ménages, aient un peu l'impression d'être un peu laissés pour compte dans les mesures qui ont été prises. Même si, il faut quand même le noter, c'est que dans des mesures qui sont aujourd'hui proposées par l'exécutif, et notamment dans la réforme de la taxe d'habitation ou la baisse de cotisations sociales, sont des éléments qui sont plutôt favorables à la classe moyenne. Mais je pense qu'il y a un problème de séquençage dans les mesures, que des mesures, et les principales mesures qui ont été très marquantes, notamment la réforme de l'ISF, est arrivée très vite et tout de suite, a profité à peu de ménages, et que les mesures plus sociales arrivent tardivement. Et je pense que ce séquençage ou ce calendrier fiscal qui n'est pas forcément extrêmement bien choisi, pose un certain nombre de problèmes ou de compréhension à l'heure actuelle.
Oui, voilà, c'est ce qu'évoquait Julien Damon à l'instant, cette baisse des cotisations sociales, cette suppression de la taxe d'habitation qui ne se fait pas encore ressentir et qui ne compense pas le malaise qui a commencé à se créer depuis l'élection d'Emmanuel Macron et les premières mesures prises, dont celle de l'ISF. Cette question du pouvoir d'achat, elle se double, Julien Damon, de celle des services publics. C'est quand même pas un hasard si le mouvement des Gilets jaunes prend aussi particulièrement dans des régions où le retrait des services publics est flagrant. Ça impacte aussi sur cette, comme vous dites, sur cette question de la redistribution, c'est-à-dire à qui profite la dépense publique aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une dépense publique qui est faite de dépenses sociales, prestations versées sur des comptes en banque, mais aussi une dépense publique qui est faite de services et d'équipements et qui a une visée plus territoriale. Alors il y a une grande sphère des services publics, mais c'est vrai que de la poste, qui, pour des raisons structurelles de diminution du panier moyen du facteur, se retire de certains territoires, en passant par le grand sujet d'inquiétude des hôpitaux et des maternités, il y a de fait des difficultés grandissantes, des inquiétudes et qui sont, elles, exponentielles au départ des services publics. Et un tout petit mot, c'est que je pense que le sujet du pouvoir d'achat, il y a une grande crainte pour le gouvernement, il doit l'avoir, cette crainte, c'est janvier prochain. Car avec le prélèvement à la source, qui est une bonne idée, qui est une bonne décision de mon point de vue, ce qui va se passer de fait sur les fiches de paye pour les salariés, c'est ce ne sera pas du pouvoir d'achat en moins, puisque s'ils sont mensualisés par, pour leurs impôts, en fin de mois, ceci devrait s'équilibrer. Mais de visu, pour le dire en latin, ils auront moins de sous en raison du prélèvement à la source. Donc le problème, il est aujourd'hui en matière d'explication, en matière de situation ressentie, il est là encore demain.
Merci beaucoup à vous, Mathieu Plane. Une réaction ?
Oui, un petit mot, parce que c'est vrai que c'est important, parce qu'on on voit bien que dans la problématique de la fiscalité va se poser ce qui a été soulevé, hein, la question des début janvier, de la hausse à nouveau des carburants. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'on voit et quelque chose d'assez exceptionnel, hein, une vraie déconnexion, en tout cas sur l'instant qu'on vit, en termes de mesures fiscales de soutien au pouvoir d'achat, c'est-à-dire que sur le quatrième trimestre, on a la baisse, deuxième tranche de baisse des cotisations sociales pour les salariés, c'est à peu près 1% de hausse, hein, du pouvoir d'achat. La première tranche de réforme de la taxe d'habitation, malgré tout on en parle peu, mais le pétrole a baissé de plus de $20 depuis début octobre, ça se ressent aussi quand même. Donc on a quand même une concentration de mesures favorables au pouvoir d'achat sur le quatrième trimestre, et malgré tout, on le voit avec les manifestations là, mais aussi dans l'indice de confiance des ménages qu'on a dans les enquêtes INSEE, qui continue à dégringoler. Donc on a une déconnexion entre aujourd'hui des mesures qui sont concrètes, hein, qui arrivent et qui aboutissent, qui ont des effets quand même sur le pouvoir d'achat, et un ressenti qui reste extrêmement dégradé.
Et la preuve en est, messieurs, cette contestation qui s'élargit aujourd'hui. Ce matin, on pouvait le voir notamment à Paris avec les ambulanciers qui se sont mobilisés contre la réforme du financement des transports sanitaires, contre l'ubérisation de leur secteur, la jeunesse avec des lycées bloqués. Est-ce que l'exécutif, pour vous, Julien Damon, est en train de se laisser déborder?
En tout cas, il voit une cristallisation des crises. Je crois que c'est le terme des spécialistes des mouvements sociaux. Se laisser déborder, c'était évoqué avec votre précédent interlocuteur à cette antenne. Il y a quand même un grand service public à la française, hein, sans passer trop de pommade, qu'est la police et la gendarmerie. La gendarmerie, d'ailleurs, comme elle se présente, elle dit qu'elle est le dernier service public dans les territoires reculés, avec, comme le dit le général à la tête de la gendarmerie, ses 3500 points de vente. Ceci pour dire que le débordement, c'est un débordement de violence aujourd'hui, hein, un débordement qui était totalement inattendu et qui fait que il faut répéter que ce mouvement des Gilets jaunes est assis historiquement sur des mécontentements qui coagulent, mais avec des formes très différentes. Entre le petit barbecue sympathique sur un rond-point où les gens mangent des saucisses et boivent des coups en ralentissant plus ou moins les véhicules, et de l'autre, les explosions de violence qui ont conduit déjà à un nombre de morts et de blessés bien supérieur à mai 68, on est sur un mouvement qui, c'est peu de le dire, est parfaitement protéiforme. Et s'y ajoutent d'autres mécontentements, vous citez les transporteurs sanitaires, c'est lié à des réformes de financement de la sécurité sociale cette fois-ci, qui diminuent les ressources des ambulanciers. Et il est vrai que le terme que l'on emploie souvent d'ubérisation s'adapte là parfaitement, parce que le jour où les pouvoirs publics commanderont par Uber nos déplacements sanitaires, ce qui pourrait se passer pour remplacer les taxis, ce seront des professions qui seront encore laminées. Ce qui m'amène à ma conclusion. Guillon pour votre question. Je pense que le grand sujet est celui de la polarisation avec des métiers qui étaient traditionnellement ceux des classes moyennes, dont ceux d'ailleurs de la police, de la gendarmerie et des infirmiers et des ambulanciers, qui n'ont plus assez de sous pour vivre en ville, qui pourtant sont essentiels à vivre en ville, qui sont coincés dans leurs habitations pour le périurbain et qui sont un peu, je le répète, s'il y a toujours des beaux accents de n'importe quel ministre pour dire vive les services publics, l'accent a été mis sur un autre monde, le pseudo nouveau monde des start-up, de cette start-up nation, de cette nouvelle économie, et l'ancienne économie ferait ringard et on laisserait dériver ce que peuvent ressentir, je crois légitimement les gens, une grande partie des métiers qui se situaient au cœur de la société française.
Alors est-ce que la disruption va aussi avoir lieu dans l'arène démocratique? On va en parler avec vous, Julien Damon. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po Paris. Je rappelle que vous êtes notre invité jusqu'à 13h30 encore. Merci à vous, Mathieu Plane. Je renvoie les auditeurs vers cette étude donc de l'OFCE sur le pouvoir d'achat des ménages, étude publiée il y a une dizaine de jours. France Culture, il est 13h23.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Vous nous parlez, Julien Damon, de polarisation. Moi, je vais vous parler convergence avec un élu de la CGT. La transformation des mouvements sociaux et la disparition des corps intermédiaires semblent aussi peser dans ce qui se joue actuellement. Autour de quoi pourrait converger le mécontentement? Écoutez.
Gilets jaunes, que l'on soit gilets rouges. Blouse blanche pour les soignants.
Nous, on est ouverts, on sait qu'on a des revendications communes, il y en a d'autres qui le sont moins. Lorsque les jaunes demandent qu'il n'y ait plus de cotisations patronales, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de sécurité sociale, plus de retraite, plus d'éducation nationale. On ne peut pas le partager. Par contre, la baisse des taxes sur l'essence, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, la défense des services publics dans le milieu rural, on peut, je pense, trouver des points communs pour converger et obtenir des avancées sociales.
Voilà une voix de la CGT qui défilait avec les gilets jaunes samedi. Julien Damon, cette diversité des revendications que vous soulignez à l'instant, est-ce qu'elle ne rend pas la réponse particulièrement difficile à formuler? Quels sont les points de convergence? Est-ce qu'il y a plus de divergence que de convergence pour vous aujourd'hui?
Je pense que pour le moment, il y a beaucoup plus de convergence vers, ça m'est venu à l'esprit en écoutant l'interlocuteur, vers une forme de mobilisation arc-en-ciel. Nous avons donc les gilets jaunes, mais nous avons aussi une France bleu-blanc-rouge qui est dans la rue. Alors, c'est ainsi en compétition en partie avec les manifestants les plus violents. Le bleu, c'est la police. Le blanc, c'est les ambulances et les infirmiers que nous évoquions tout à l'heure. Et le rouge, ce sont les pompiers. D'ailleurs, je crois que c'est une crainte importante des pouvoirs publics, crainte légitime, qui est qu'il y ait une forme, alors là, quasi historique de rébellion, insurrection, si d'aventure tous ces métiers au cœur des classes moyennes et des services publics se mettaient à suivre les gilets jaunes. Donc dans cette grande convergence de problèmes, cette revendication, allons forcément rapidement à dire des mots forts, même un peu délirantes, à vouloir tout augmenter, à dissoudre l'Assemblée, dissoudre même presque le président de la République, il faut arriver à raison garder, mais il est difficile, c'est vrai, de raison garder quand vous avez accumulation des mécontentements et également un tel soutien dans l'opinion publique à l'égard d'un mouvement aussi protéiforme soit-il.
Alors là, le Premier ministre est en train de consulter, de rencontrer notamment les représentants des partis politiques et des partis d'opposition. On a l'impression que chacun cherche, là encore, où se positionner face à cette mobilisation. Deux mots. Ce matin, Emmanuel Todd sur notre antenne qui estimait que face aux gilets jaunes, le gouvernement cherche le chaos pour provoquer une rupture.
Ouais. Je sais pas, monsieur Emmanuel Todd est comme moi, d'un coup d'un seul, et comme 60 millions de Français, 67, on devient tous, je cherchais à le prononcer tout à l'heure, des gilets jaunologues, des spécialistes de gilets jaunologie, estimant que le gouvernement fait bien ou pas, et qu'il y a des stratégies cachées. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement qui cherche le chaos, au contraire, les gouvernements cherchent l'apaisement. Je pense que le gouvernement...
C'est moins une stratégie cachée, vous y voyez quoi? Un manque d'imagination pour l'instant, ou d'expérience politique?
Oh non, expérience politique, il y a pas mal de gens qui ont de la bouteille quand même. même, au-delà du président, il y a autour d'eux des hauts fonctionnaires de compétition et de qualité. Non, je pense que ce qu'il y a, c'est un retour en pleine figure d'un discours politique. Vous avez employé, vous, tout à l'heure, le mot disruption. Je pense que c'est un mot qu'aucun des gilets jaunes n'apprécie. Qu'est-ce que c'est que ce mot? De quoi parle-t-on? Le Startup Nation? Enfin, je reviens sur mon ancienne là-dessus. Je pense qu'au-delà du ras-le-bol fiscal, c'est d'un ras-le-bol social. Alors, certains pourraient aller même jusqu'à dire ras-le-bol sociétal, ce qui ne veut pas dire grand-chose, j'en conviens, mais c'est un ras-le-bol à l'égard d'un discours pour une France moderne, celle du 21e siècle, qui n'aurait rien à voir avec ces ploucs émissaires, j'ai lu aussi l'expression là, que sont les gens coincés dans le périurbain, qui ne participeraient pas à cette modernité sans nom et qui freineraient toutes les réformes. Je pense que le gouvernement a de l'expérience, mais le gouvernement a également des réformes qui sont valables, ça on pourrait en parler, mais il se prend en pleine figure des attitudes, au-delà des décisions, des mots. Le président de la République a été, au-delà du contenu de ses propositions, très maladroit lui-même, en convient, je pense, quand il parle, là, des gens qui vont pouvoir trouver un boulot en passant de l'autre côté de la rue, quand certains ministres ont expliqué qu'il y avait des crétins qui polluaient avec leur diesel, tout ceci n'est absolument pas supportable.
Alors, vous serez peut-être plus d'accord avec les mots de la philosophe Cynthia Fleury, qui, elle aussi, évoquait ce parallèle avec mai 68, en estimant que aujourd'hui, c'était, ou hier, c'était une révolution autour de la liberté contre l'autorité, qu'aujourd'hui, on est plus face à une insurrection contre l'inégalité. C'est sensiblement différent. Dans tous les cas, Julien Damon, il y a un défi démocratique qui se pose pour l'exécutif aujourd'hui. Il y a une réponse immédiate peut-être à apporter, mais sur le long terme, comment repenser ce contrat social qui est en train de montrer de sacrés signes de fatigue, non ?
Alors, contrat social, on pense immédiatement à Jean-Jacques Rousseau, très bien. Il y a une petite citation de Rousseau qui s'impose, elle est jolie. En même temps, elle est assez antidémocratique, c'est là où le représentant n'est plus le représenté. C'est anti-parlementaire ce qu'il était, il était contre le système représentatif. Ce que sont aussi fondamentalement une grande partie des revendications des gilets jaunes, autoproclamés, plus ou moins porte-parole. Alors, je pense que avant d'être une crise sociale, c'est vrai que c'est une crise politique. Les corps intermédiaires qui, encore une fois, à juste titre, ont pu se sentir un peu méprisés, sont un peu à côté de l'opération. D'ailleurs, le Premier ministre, aujourd'hui, reçoit les partis politiques. Il ne reçoit pas les organisations syndicales qui auraient pourtant leur mot à dire sur ces affaires. Il y a plein de propositions qui sont faites dans tous les sens. On voudrait des référendums permanents, on voudrait qu'il y ait une cinquantaine de gilets jaunes immédiatement nommés au Conseil économique et social. Je pense que la solution est, dans ce qui va se passer demain et après-demain, d'abord une discussion parlementaire. Il faut un peu calmer le jeu.
Merci beaucoup à vous, Julien Damon, d'être venu vous prêter à cette parole pas évidente.
Cette gilet jaunologie.
Cette gilet jaunologie.
Compliqué.
Merci, mille fois. Merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, à Mayan Eskovic, avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture, et l'aide toujours précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.